Mais ouais, il a failli parler à mon iPad là. Content d'être avec vous ce matin. Si je ne vous connais pas, c'est normal, vous êtes nouveau pour moi aussi. Et on va ouvrir la parole, mais dans quelques instants. On est content de se retrouver ici, c'est une joie. On a chanté tout à l'heure, je suis dans la joie. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis dans la joie de savoir que l'église elle a 10 ans, non ? Vous n'êtes pas dans la joie ? Qui c'est qui est là depuis plus de 3 mois ? Ok, c'est bon, hein ? Qui c'est qui est là depuis moins de 3 mois ? Il y en a quelques-uns, hein ? Vous allez voir, il y a quelqu'un qui est plus ancien que vous. Et on dirait pas. Bon, on va aller dans une. Vous allez voir. On va aller dans une diapo. La première diapo, si vous voulez bien. Et je vais vous demander si vous connaissez ces gens. Alors, il y a Kevin Fast. On peut. Si tu appuies une deuxième fois, il y a les noms qui vont apparaître. Super. Kevin Fast, Elisabetta Lipa, Nick Valenda, Melvin Booth, Lee Redmond. En fait, c'est comme la photo de classe. On a commencé par le premier, on est arrivé le dernier en bas à droite. Ok ? Est-ce que vous connaissez ces gens-là ? Non, moi non plus, jusqu'à hier, je ne connaissais pas tous. Et je crois que si on regarde autour de nous aussi, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas. Vous connaissez votre voisin ? Votre voisine ? Non ? Et si tu connais tout le monde sur ta rangée, c'est parce que c'est ta famille, tu tournes derrière et tu vas trouver des gens que tu ne connais pas. En fait, ce qui est merveilleux dans cette église, c'est que tout au long des 10 années, non seulement l'Église elle a continué d'avancer, elle a grandi en fait en taille spirituelle, mais elle a grandi en nombre aussi. Elle a grandi en nombre et il y a plein de gens qu'on ne connaît pas au final. Enfin, moi, il y en a plus que vous ne connaissez pas. Mais il y a plein de gens qu'on ne connaît pas. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que même si tu as l'impression d'être un inconnu ici, même si tu as l'impression que personne ne te connaît, de ne pas avoir ta place, tu as ta place ici, Dieu lui te connaît. Amen. Dieu lui te connaît. Moi, je ne te connais pas encore, mais Dieu lui te connaît avant que tu naisses, il te connaissait. Gloire à Dieu. Avant que tu naisses, il te connaissait et il avait des plans, des projets. Est-ce que en regardant ton voisin, tu arrives à deviner ce qu'il fait dans la vie ? Tu essayes. Et si tu te hasardes à dire ce que tu penses, c'est que par hasard, tu te plantes, quoi, tu vois, ça met un malaise. Par exemple, il y a des gens, ils sont à la banque, ils te servent le café le dimanche quand tu arrives le matin, et tu imagines, ouais, bon, ils servent le café, c'est pour, voilà, c'est juste un ingénieur CNRS ou un super inspecteur de la police, quoi, tu vois. Il y a des gens, tu devines pas ce qu'ils font. Eux, si tu arrives à deviner ce qu'ils font, alors je te paye un repas à midi. Ça va, ils sont pas chers ici. Ils ont tous un point en commun. Tous un point en commun. Nous aussi, on a tous un point en commun. On est tous ici rassemblés dans le même lieu. Mais eux, ils ont tous un point en commun. Ils n'étaient pas rassemblés dans le même lieu. Ce n'est pas tous des hommes. Ce n'est pas tous des femmes. Ils ne sont pas tous du même pays. Ils ne sont pas tous de la même génération. Enfin, pas tous les mêmes choses dans la vie. Devinez quoi ? On va à la diapo suivante. Ils sont tous dans le Guinness des records. Est-ce qu'en voyant le monsieur qui n'avait pas trop de cheveux, juste sur les côtés, vous imaginez que Kevin Fast avait un jour dans sa vie tiré un avion de 8,8 tonnes sur une distance de presque 9 mètres. Non, non, pas 8,8, ça c'est 8,8, c'est la distance. Un avion de 188 tonnes, 8, sur presque 9 mètres. C'est impressionnant. En voyant la photo, tu as deviné que le gars avait fait ça ou pas ? Non ? En tout cas, c'est impressionnant. Et tu sais quoi ? En regardant les personnes autour de toi, tu n'es jamais capable de savoir ce que Dieu il est capable de faire avec eux. Alors, je ne dis pas que c'est Dieu qui l'a aidé à tirer un avion. Hein. La dame à côté, on aurait dit Angela Merkel, version cousine. Et c'est une cousine, c'est une roumaine, en fait. C'est une rameuse. Et c'est la rameuse qui a gagné le plus de médailles d'or au championnat olympique. 5 médailles, cette dame, elle avait. Alors quand on la voit, avec son super brushing, ses boucles d'oreilles, son regard super et son tailleur rouge, en fait, on n'imagine jamais qu'un jour elle se trouvait avec des rames dans une équipe ou seule et elle a gagné 5 médailles d'or. C'est trop fort, non, quand même hein il y a, et la dame là qu'on voyait dans l'angle, qui s'appelle Lee Redmond, c'est la dame qui avait les ongles les plus longs au monde. En fait, elle détient le record des ongles les plus longs au monde. Bout à bout, combien ça fait ? Allez, un chiffre. 9 mètres. Oh, toi, t'es... Alors, il y en a une, elle m'a dit 5 mètres. J'ai dit petite joueuse, mais là, 9 mètres, j'exagère. T'as des ongles de 9 mètres. Non, 8 mètres 50 d'ongles, ça vous va ou quoi? Qui c'est qui fait manucure? Personne, ok. Parce que le jour où tu la vois arriver, tu mets closed. Non, il n'y a plus la place. Et en fait, pour ceux qui croient que les femmes ont toujours des ongles plus longs que les gars, c'est pas vrai. Le monsieur à côté, qui s'appelle Melvin Booth, lui, il avait des ongles qui faisaient 9 mètres 85. C'est hallucinant, hein? Et pour la dame, en fait, il a juste suffi d'un petit accident et ses ongles se sont cassés. C'est ballot quand même, hein? Je sais pas combien d'années tu mets pour avoir des ongles de 8 mètres 50, mais un petit truc qui va pas et puis les ongles se cassent et c'est fini. Mais bon, en même temps, elle figure déjà sur le Guinness des records. Donc, elle s'en fout. OK? Est-ce que, si vous êtes comme moi, si vous croyez, si vous avez la foi, vous avez réalisé à plusieurs reprises qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on n'anticipera jamais, mais qui se passent. Et ça, c'est ouvert à ceux qui ont le regard de la foi. Notre regard, là, ça n'a pas été de suite un regard de la foi. Quand on a vu ces gens sur la diapo, on ne s'est pas dit, tiens, ouais, je suis sûr que lui, il a tiré un avion de 188 tonnes sur 9 mètres. Parce que déjà, on ne savait même pas que c'était possible. Moi, je n'ai jamais pensé que c'était possible de tirer un avion de 188 tonnes. Mais lui, je ne sais pas, mais il a dû voir que c'était possible à un moment donné. Hein? Quand il a soulevé sa femme la première fois avec un doigt, je ne sais pas, il a dû se dire « Waouh, je peux faire des trucs super puissants ». Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on est entouré de plein d'inconnus, mais s'il y en a un pour qui tu n'es pas un inconnu, c'est Dieu. Et s'il y en a un qui peut te conduire à vivre des choses que jamais personne ne pourra imaginer que tu vives, c'est Dieu. Parce que lui, il voit d'une manière que personne ne voit. Personne ne voit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Dieu envoie son prophète chercher le futur roi d'Israël, et il y a le casting, il y a tout le monde qui passe, le grand beau gosse, cheveux noirs, puissant, l'armure, tout ça. Non, lui non. Non, lui non. Non, lui non. Non, lui non. Israël has got talent. Et puis finalement, c'est quoi? C'est un petit blond aux yeux bleus qui va faire roi, qui garde des brebis, qui amène des fromages à ses frères. Vous voyez la manière de Dieu de regarder? Et vous savez quoi? C'est de cette manière que Dieu veut nous conduire à regarder. On peut aller à la diapo suivante? Parce que les apparences sont souvent trompeuses, en fait. Et marcher et vivre, selon ce que je vois, ce n'est pas la meilleure manière de marcher ou de vivre. Je crois qu'on est dans un bas monde où tout ce qui frappe les yeux, ça nous intéresse. Est-ce que vous allez sur un compte Facebook où il n'y a pas de photo de profil? D'ailleurs, expliquez-moi pourquoi toutes les photos de profil, elles sont de face. Bon, blague mise à part, c'est pas grave. C'est pas la meilleure manière de vivre. C'est peut-être même la moins bonne des manières de vivre. Parce que si tu t'arrêtes à ce que tu vois, tu vas demeurer dans ce que tu vois. Mais si tu commences à voir au-delà de ce que tu vois, que tu crois dans ce que Dieu te dit, tu vas vivre des choses que jamais tu aurais pensé voir. Et je crois que l'Église, là, elle est en train de faire, de se diriger et de marcher avec ce type de regard. Ce type de regard. Je crois que tous ceux qui étaient là en premier, qui étaient là, je ne sais pas comment elle était la salle avant, mais quand ils sont venus ici, c'est un peu comme le jeune couple de mariés qui arrive dans leur premier appartement. Et en fait, ils se retrouvent dans un truc, c'est vachement trop grand pour eux. Ils n'auraient jamais imaginé pouvoir vivre là-dedans. C'est dur de passer de 9 mètres carrés à 60 mètres carrés, par exemple. Moi, c'est ce qui nous est arrivé. Mais les apparences sont trompeuses et c'est pas la bonne manière de vivre, de regarder simplement, de marcher selon ce que je vois. Allez, pour vous le prouver, on va à la diapo suivante. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Visite médicale. Alors, je vais te prouver, à toi qui es là-bas tout au fond, que tu ne peux pas marcher que parce que tu vois. Tu me lis la cinquième lettre sur la dernière ligne, s'il te plaît. Il y a tout le monde qui a fait. Ah non, c'est parce que l'écran est là. Ok. Est-ce que vous pouvez... Non, mais pas là-bas, hein, celle-là. Lire. Par exemple, le monsieur avec la chemise bleue. Pouvez-vous lever? Comment il s'appelle, le monsieur? Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me lire cette lettre? S'il le fait, je suis mal. Hein. Oh, yaï, yaï! J'aurais dû rajouter une ligne, mais bon, il a une super vue, hein. Alors, est-ce que tu peux lire celle-là ? La sixième, en partant de la droite. Non, ok, bon, voilà. On ne peut pas marcher que par la vue. C'est pas possible de marcher que par la vue. Il faut un autre mode de vision. Parce que sinon, on ne va pas loin. Parce que sinon, on est bloqué. On va rester dans ce qu'on voit. Et rester dans ce qu'on voit, c'est se passer de ce que Dieu, lui, il voit. Non ? J'en vois un qui fait comme ça. Je ne sais pas s'il est en train d'essayer de lire les lettres, de faire un test de vue, ou s'il ne me voit pas assez. Moi, je suis assez large. Tu me vois normalement ? Ok ? En même temps, regardez. Heureusement qu'on ne s'arrête pas à ce qu'on voit. Parce que l'autre penchant, c'est que les choses, on les voit trop bien. Ok ? Les choses, on les voit trop bien. Il y a des choses qu'on voit et qui nous impressionnent. Des choses qu'on voit et qui vont nous empêcher d'avancer. Et c'est là qu'il faut juste fermer les yeux et foncer quand même. Qui a fait du rugby déjà ? Ok. Est-ce que tu n'as jamais fermé tes yeux quand ouais, ok, tu es obligé. Parce que tu as le ballon, tu cours et en face de toi, tu as Jonah Lomu. Mais le grand frère, il fait 2,50 m et il fait 188 kilos. Tu as l'impression d'avoir l'avion du gars là. Et en fait, tu fermes les yeux et tu dis ça va faire mal. Mais en fait, tu fais une petite feinte et tu passes. Okay. Mais bon, passons, pour ceux qui sont pas rugbyman, en fait, heureusement qu'on ne s'arrête pas à ce qu'on voit quand on marche. Okay. Heureusement qu'on ne s'arrête pas à ce qu'on voit quand on marche. Le dernier que je n'ai pas présenté, vous avez vu que je n'ai pas présenté quelqu'un, ça vous est arrivé de passer inaperçu ? Et pourtant, il y a plein de choses en vous qui ne devraient pas passer inaperçues. Et Nick Valenda, il ne faut pas que ça passe inaperçu. On va mettre la vidéo, s'il te plaît, de Nick Valenda. Nick Valenda, ce n'est pas le genre de gars qui se laisse arrêter parce qu'il voit. On peut l'envoyer. Ouais. Est-ce que vous voyez le décor ? Ça vous va ? Vous avez déjà fait ça ? Moi, non.
Ouh, that's a view there, buddy.
Est-ce quelle super vue. Waouh ! Rien qu'en vidéo, ça impressionne quand même. Hein. Ouh ! Et dire qu'il y en a qui ont peur d'aller au balcon.
Way worse than I expected. Talk all you want. That's why the world is watching. Till you get here. Praise you, Jesus.
You're doing good.
Alléluia.
Looks spectacular.
Thank you, Jesus.
Vous avez vu, il a dit thank you Jesus. Nous là-dedans, on dirait non Seigneur, aide-moi. 700 feet, c'est 450 mètres. Bon, il y a Superman à un moment donné. Hein. C'est bon.
Thank you, Jesus.
Il tombe, il va le sauver. Je vous ai pas mis la version en live parce qu'elle fait 23 minutes. 23 minutes comme ça. Des fois, au bout d'un quart d'heure de footing, je suis fatigué, mais là, 23
Thank
minutes.
Thank you, Lord. Thank you, Discovery Channel, for believing in me.
Little nephew standing out there watching too.
Et le final est juste magique, en fait.
True artiste.
How about that?
You take your time, man.
I am.
C'est bon ? Est-ce que en voyant la photo de Nick Valenda, vous auriez dit toi t'as marché 23 mètres à 450 mètres du sol, 23 minutes 450 mètres du sol entre deux montagnes du Grand Canyon. C'est impressionnant quand même, non ? Et vous savez quoi ? Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a des choses fantastiques que Dieu veut faire avec nous. Mais ça ne se voit pas. Et même nous, on ne le voit pas. Mais Dieu le voit. Gloire à Dieu. Et je crois que Dieu veut nous conduire à voir de sa manière. À voir de sa manière. Quand je dis la foi, vous pensez à qui dans la Bible ? Pour ceux qui ont l'habitude de lire, pour ceux qui n'ont qui pas l'habitude, tu vas découvrir. À qui ? Plus fort, plus fort. Abraham, ok ? Abraham. Et pourtant, quand on parle de foi, classiquement, on peut penser à Moïse, non ? C'est même pas de la foi d'ouvrir la mer et tout ça quand Dieu te demande. C'est quand on pense à la foi, on pense à Élie, à Élisée, des gars qui ont fait des gros miracles, des trucs de fou. Mais la foi, ce n'est pas forcément spectaculaire. Parce que si tu penses que la foi, c'est simplement voir des miracles, ce n'est pas ça la foi. Parce que déjà, la foi, elle ne commence pas par voir. La foi, elle commence par croire. Non ? Pensez pas ? La foi, elle commence par croire. Allez, on va lire la Bible. On ouvre la Bible dans Romains chapitre 4, versets 17 à 24. Romains chapitre 4, versets 17 à 24. On y est ? Sinon, ça s'affiche. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous avez saisi tout le passage. D'ailleurs, il y a beaucoup de passages dans la Bible. Il ne faut pas les lire comme ça, comme on lirait le 20 minutes. Il faut prendre 20 minutes pour lire un verset, des fois, ou plus. Mais Abraham, c'était vraiment le père de la foi. En fait. C'était le père de la foi. On a vu qu'il y avait un point commun chez toutes ces personnes qu'on a vues dans le premier diapo. Un point commun, c'est qu'ils étaient tous au Guinness des records. Mais vous savez quoi ? Quand on ouvre la Bible, c'est un Guinness des records aussi. Et c'est plutôt un goodness record. Hein? Oh my goodness. Dieu est puissant. Il agit de manière fantastique avec des gens que quand tu les vois, tu diras jamais que Dieu va faire ce qu'il a fait avec eux. Mais parce que Dieu a changé leur regard, ils sont rentrés dans les choses que Dieu il avait vues pour eux. Parce qu'ils ont arrêté de regarder de la manière dont ils regardaient, Dieu a fait ce qu'il avait prévu de faire avec eux. Et ce matin, je voudrais parler du regard de la foi. On voit la diapo suivante. Le regard de la foi. Et en fait, la foi, elle renverse tout. Sans la foi, tu es limité à ce que tu vois. Avec la foi, tu vas être conduit dans ce que Dieu voit. Et la foi, elle renverse tout. Là, Nick Valenda, il est allé d'une montagne de droite, à la montagne de gauche. Mais avec la foi, tu passes d'une montagne d'en dessous à la montagne du dessus. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image. Parce que Abraham, il avait un point de départ formidable. Il est parti d'une montagne pour arriver à une autre montagne. Qu'est-ce que c'est la foi pour vous ? Comme je disais tout à l'heure, on peut donner la définition de la foi de Hébreux 11. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans Hébreux 11. Ou alors, on peut essayer de réfléchir avec nos mots. C'est à ça que j'étais confronté quand tu m'as posé la question. Comment tu définis la foi ? Alors, on a tous... Moi, j'ai une réponse pastorale. La foi, c'est comme dans Hébreux 11. Okay ? On aura le verset tout à l'heure. Mais en fait, la foi, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir une relation de confiance avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai la foi. Moi, je crois en Dieu. Mais ça, ce n'est pas la foi. Croire en Dieu, ce n'est pas la foi. Croire en Dieu, ce n'est pas la foi. Croire simplement dans l'existence de Dieu, il y a plein de gens qui croient que Dieu existe, mais ils vivent leur vie comme ils veulent. Il y a plein de gens qui croient que Dieu existe, mais Dieu n'a jamais rien fait dans leur vie. Il y a plein de gens qui croient que Dieu existe, mais ils n'ont jamais eu un vrai contact avec Dieu. Parce que la vraie foi, c'est la base de notre relation avec Dieu. La foi, c'est avoir une relation de confiance avec Dieu. La foi, c'est l'expression d'une relation de confiance avec Dieu. Est-ce que tu as une relation de confiance avec Dieu ? Je ne sais pas si Nick Valenda, bon, il a dit « Thank you, Jesus », tout ça, je ne sais pas. Mais c'était beau, en tout cas. Je pense que c'est super qu'à la télé, on entende des choses comme ça. Et on voit que le gars, il n'est pas simplement confiant en lui-même. Et on voit que le gars, il a placé sa confiance ailleurs aussi. sa confiance en Dieu. Il a une relation de confiance avec Dieu. Il est en train de faire du funambule, mais qui c'est qui dit « c'est une réunion de prière, mais il n'y a que lui ». Ben, à cette altitude, et dans ce cadre-là, en plus, il n'y a vraiment que lui. Des fois, on se dit « ouais, on n'est pas beaucoup à la réunion de prière ». Lui, il était seul. Et je peux te dire qu'il n'y a personne, malgré les invitations, tu mets du café, des gâteaux, il n'y a personne qui va aller à sa réunion de prière, lui. Hein. Mais il a une relation de confiance avec Dieu. Et c'est ça, la foi. Et vraiment, le regard change quand cette relation s'installe. Le regard d'Abraham a changé quand cette relation elle, s'est installée. Et je crois que c'est ce dans quoi Dieu il voudrait nous conduire. Vous savez, Nick Valenda, il est parti d'une montagne, une des montagnes du Grand Canyon. Et je ne pense pas qu'il est venu, il a planté son piquet à l'arrache, puis il a planté de l'autre côté. Déjà, c'était certainement une équipe, ils ont fait une étude de sol pour savoir si l'endroit où ils allaient planter tout ça, ça n'allait pas s'écrouler, non ? Ok ? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants quand ils vont à l'école ? Attache tes lacets ! Parce que si tu pars comme ça, tu risques de te ramasser. Il faut savoir d'où on part. Il faut savoir comment on part. Il faut savoir de quelle montagne on part, de quelle montagne tu pars. La foi, c'est une relation de confiance en Dieu parce qu'on est basé sur une montagne, on est basé sur un roc. Notre fondement, c'est ce que Dieu nous dit dans cette relation. Il y a des gens ils disent, qui croient en Dieu, mais quand est-ce que Dieu t'a parlé la dernière fois ? Bon, oui, tu crois à son existence, mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu te dit. C'est avoir ce fondement. Il y a des gens qui disent on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'éternité. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais si, tu peux savoir ce qui va se passer après. Parce que Dieu, lui, il annonce les choses bien longtemps avant qu'elles arrivent. Bien longtemps. Il dit j'ai annoncé les choses avant qu'elles arrivent afin que vous sachiez que c'est moi qui les aurais fait. Alléluia. Afin que vous sachiez que c'est moi qui les aurais fait. Et je crois une chose, c'est que Dieu veut nous conduire à avoir ce regard de la foi. Et le regard de la foi, il commence à regarder la montagne de départ. D'où je pars. Et ton point de départ, ça doit toujours être ta relation avec Dieu. Ton point de départ, ça doit toujours être ce que Dieu t'a dit. Ce qu'on pense, c'est influencé par ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est du matériel. Ça peut être la création de Dieu, mais il y a plein de choses. La création l'a malmenée. Et il y a plein de choses qui vont nous bloquer. Abraham, lui, par exemple, on verra par la suite, il y a plein de choses qui pouvaient le bloquer. Mais il a décidé d'arrêter de voir. Abraham avait une vraie relation avec Dieu. Quand on lit la vie d'Abraham, on voit que d'endroit en endroit, il avait un endroit où il était tout seul avec Dieu. Comme Nick Valenda, pas 450 mètres de hauteur sur un fil. Mais il était là, il bâtissait un endroit où il allait se retrouver avec Dieu, où il allait avoir une vraie relation avec Dieu. Et là, Dieu dirigeait ses pas. Dieu dirigeait ses pas. Dieu parlait. Alors vous allez me dire, mais comment Dieu parle ? Tu l'as entendu, Dieu ? Non, je ne l'ai pas entendu. Ou tout du moins, je ne l'ai pas entendu avec ça. Tu l'as vu, Dieu ? Non, je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas vu avec ça. Mais j'ai vu Dieu agir quand même. Et je n'ai pas vu avant de vivre. Mais j'ai vécu parce que j'ai cru. Et je crois que Dieu veut nous inviter à avoir ce regard de la foi. Abraham avait cette relation et Dieu lui a parlé. Il allait voir Sarah, certainement. Ouais, j'ai rencontré Dieu, Dieu m'a dit ça, mais ça n'était pas là. Des fois, on ne peut pas comprendre quand on dit Dieu me parle. Mais je peux te dire une chose, c'est que c'est très simple en fait. Dieu parle réellement. Et je peux te dire une chose, c'est que Dieu ne parle pas à ceux qui écoutent. Parce que Dieu ne fait pas de sélection. Dieu veut te parler par exemple ce matin. Mais quand tu vas te mettre à écouter, quand tu vas désirer entendre, tu vas te rendre compte que Dieu écoute, que Dieu parle. Quand tu vas désirer que Dieu te parle, tu vas te rendre compte qu'il y a bien longtemps que Dieu te parle et que tu es en train de passer à côté de plein de trucs que Dieu a pour toi. Tu es en train de te voir et tu te vois peut-être grand déjà avec plein de plans, plein de projets, mais Dieu peut-être te voit autrement. Et si tu n'entends pas cette voix de Dieu qui veut t'interpeller par exemple ce matin, tu vas passer à côté de ta vie. Réussir dans la vie, ce n'est pas réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est vivre et voir comme Dieu veut que nous vivions et voir comme Dieu veut que nous voyons. Et Dieu veut te parler ce matin. Comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu ? Comment est-ce que je peux voir les choses que Dieu veut dans ma vie ? Comment est-ce que je peux vivre ces choses-là ? Ben, par exemple, là ce matin, Dieu est en train de te parler. Je le crois. On a prié pour ça. On a prié pour que je sois béni, pas pour que j'ai plus de bénédictions, mais spécialement à cet instant, pour que vous soyez bénis. Parce que si moi je suis béni, quand je vous annonce que Dieu me demande de vous annoncer, alors vous êtes bénis parce que vous pouvez recevoir ce que Dieu veut vous dire. Et Dieu parle au travers de la prédication. Dieu, comment croiront-ils si personne ne prêche? C'est marqué dans la Bible, c'est ça? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Comment est-ce qu'ils vont croire? Comment est-ce qu'ils croiront s'il n'y a pas la parole de Dieu? Parce que les gens qui disent « Ouais, moi j'ai toujours eu la foi. » Non, la foi, la définition biblique. Prochaine diapo. La foi, on voit Romains 10, 17, le verset du bas. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand tu entends Jésus te parler, ça va changer ta manière de voir. Alléluia. Vous savez, quand on lit les évangiles, on voit plein de gens qui se voyaient terribles. Il y a cette femme-là qui était amenée vers Jésus, qui allait être lapidée. On l'a surpris en flagrant délit d'adultère. On a vu qu'elle a fait un adultère. On l'amène à Jésus, elle se voit comme une coupable, elle se voit comme les gens la voient. Et peut-être elle se voit pire, parce que même quand les gens ne sont pas là, elle sait qui elle est. Mais Jésus l'appellera ma fille. Tes péchés sont pardonnés. Quelle grâce. La femme à la perte de sang, elle était impure, les gens la voyaient comme impure. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il la voit comme une enfant de Dieu. Quelle grâce. Si on pouvait voir comme Jésus voit, mais ça serait merveilleux, et ça va être merveilleux. C'est pour ça que l'Église grandit. Certainement parce que les uns et les autres, on a commencé à voir comme Jésus. Cette relation de confiance, elle se bâtit quand Jésus te parle. Notre fondement, notre base de départ, notre première montagne, la première montagne de Nick Valenda, c'était quelque chose de solide certainement, mais notre montagne à nous, elle est encore plus solide. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. C'est ce en quoi il a cru. Moi, je suis là, par exemple, parce que Dieu m'a parlé. Alors, vous allez me prendre pour un mystique, mais je ne suis pas mystique du tout, vous allez voir. Peut-être. Pour certains, mais ce n'est pas grave. Je disais bonjour à Yvan pour la deuxième fois à la terrasse d'un McDo. Vous voyez, ça, c'est vraiment le super cadre spirituel dans lequel toute chose se passe. C'est pour ça qu'on fait des groupes connexion. Parce qu'en fait, il n'y a pas quatre murs d'église. L'église, elle n'a pas de mur. L'église, elle a des frontières qui ne cessent de reculer. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez les murs de l'église, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on veut se regrouper, parce que dans ce cadre-là, les personnes qu'on ne connaît pas dans la grande assemblée, on va les connaître. Et on va connaître des témoignages. On va se rendre compte que la personne que j'ai vue, à qui je ne prête pas trop d'attention, parce que son apparence, elle n'est pas dans mes critères à moi, eh ben, je vais me rendre compte qu'elle a vécu des choses, franchement, mais j'ai toujours rêvé de les vivre et je ne les ai pas encore vécues. Et ça va me stimuler. Je vais mieux la connaître, je vais mieux connaître Dieu, je vais mieux savoir toute l'étendue de la puissance de Dieu et je vais pouvoir vivre à mon compte les choses que Dieu a promises. Amen. Et on va se retrouver dans ces contextes-là. Et moi, j'étais donc là à McDo et je dis bonjour à Yvan. C'est la deuxième fois que je croisais Yvan de ma vie. Je ne le connaissais pas. Et puis, je lui dis bonjour. Mais comme ça, bonjour, on serre la main. Il me dit une phrase, on rigole, comme Yvan essaie de dire. Je tourne le dos et dans mon cœur, je sens « Tu vas travailler avec Yvan. » Je ne comprenais pas. Hein. C'était juste une pensée. C'était juste une pensée. Je ne connais pas Yvan. Je n'avais pas envie de monter à Paris. J'avais pas envie de monter à Créteil, je suis marseillais à la base. Donc vous savez vraiment que là, Dieu fait des miracles, par exemple. Et je disais à Béa, en revenant de Montluçon, je dis, j'ai l'impression que Dieu il trace une route. Quoi. Tu vois, on était à Marseille, on est passé par Avignon, on va aller à Lyon, et puis on dirait que Dieu trace une route comme ça. Je dis, c'est juste une pensée, je ne sais pas. Vous savez quoi? Au mois de février de l'année d'après, je me retrouve à Créteil pour le rassemblement des étudiants. Parce que mon pasteur de Lyon venait prêcher ici. C'est bizarre ça quand même, non? On se retrouve avec notre groupe. Et puis finalement, Yvan me dit, il faut qu'on parle. Je dis, ah, moi je savais ce qu'il allait me dire. Et on n'a pas eu le temps. Au mois de mars, on se voit. Et à Montluçon, derrière un grand rideau, on n'était que tous les deux comme ça. Il dit, tu voudrais pas continuer la route que Dieu t'a tracée? Le regard que j'avais de la route, le regard qu'il avait de la route, c'est Dieu qui avait vu cette route et qui l'a tracée. Gloire à Dieu. Je suis pas un mystique, je veux continuer à voir par la foi. Et je t'invite à regarder par la foi, parce que quand Dieu parle, il agit en fonction de sa parole. Et ça, c'est la base de notre relation de foi. La base de notre relation de foi, c'est la montagne dont je pars. Alléluia. Et vous savez, on va partir bientôt d'ici, et on va aller dans une autre montagne. Et vous savez qu'ici, c'est solide à ce qui paraît. Oui ou pas? C'est solide ou pas? Oui, à ce qui paraît. C'est bien bâti, c'est bâti sur des piliers. J'ai appris ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne fais que répéter. Est-ce que vous avez déjà été au stade? Qui a déjà été au stade? Vous savez, au stade, à un moment donné, on fait un truc, c'est ça. Vous avez fait ça ou pas? Ouais, il y a des endroits où c'est dangereux de le faire. Est-ce qu'on le fait là? Vous voulez vraiment vérifier si c'est solide ou pas? Allez, tous on le fait. Allez, avec les pieds. Non, pas comme des fillettes. Vraiment comme au stade. Oh, c'est vraiment solide. Tu sais quoi? Tu peux faire ça avec la Bible. Tu peux faire ça avec la Bible. Avec la parole de Dieu. C'est le fondement de départ qui est le plus solide. La Bible dit que le ciel et la terre, ça passera. Les choses que tu vois, que tu penses être les plus solides, les plus redoutables, les plus invulnérables, ça n'est rien par rapport à la montagne de la parole de Dieu. Alléluia. Et je veux te dire juste une chose, c'est que si, comme Abraham, tu as une promesse de Dieu, c'est ton fondement le plus solide possible. Tu sais quoi? Le fondement le plus solide que tu as, c'est pas toi, c'est pas ta piété, c'est pas toi, ce que tu fais pour Dieu, mais c'est ce que Dieu a dit pour toi et c'est ce que Dieu a dit qu'il allait faire pour toi. Et par toi. Gloire à Dieu. Est-ce que si on était à un club des aînés, un club des papis, des mamies, on voit arriver un couple avec une dame, elle a plutôt des formes bizarres en fait. On les présente, Abraham et Sarah. C'est un nouveau couple, ils nous joignent cette année. Ouais, on les applaudit, gloire à Dieu. Ils ont signé, ils sont rentrés, ils sont passés à la borne d'accueil. Et puis ils sont membres de l'église de Créteil. Sarah a 99 ans et bientôt elle va avoir un enfant. C'est quand même, ce serait fort, hein? 99 ans, bientôt un enfant. Alors, si vous avez du linge pour nouveau-né, tout ça, si vous avez des chocs biberons et tout, amenez parce que Sarah, elle en aura besoin. Mais ça serait fou quand même, hein? Mais c'est ça, en fait. Quand je disais que la Bible, c'est le livre des records, c'est vrai, en fait. C'est vrai, Abraham, Sarah figure au goodness des records. Dieu fait avoir un enfant à une femme de 99 ans. Et oui, quand on y réfléchit, c'est ça en fait. Hein. Est-ce que nous, on aurait vu ça? Est-ce que nous, on aurait choisi, pour assurer une postérité, la meilleure génération qu'on veut, allez, on va trier sur le volet, on a trouvé Abraham et Sarah, ils sont parfaits pour ce couple-là. On veut la meilleure génération, on va prendre un couple 99 et 100 ans, c'est merveilleux. Non, mais il n'y a que Dieu pour voir des trucs comme ça. Et si tu ne te sens pas à la hauteur de ce que Dieu te demande, ben regarde Abraham et Sarah. Si Dieu te parle et que tu as du mal à imaginer que ça puisse arriver, mais ce n'est pas grave. Dieu veut t'inviter à avoir le regard de la foi. Parce qu'à un moment donné, à cet homme qui avait presque 100 ans et qui n'avait pas la possibilité d'avoir d'enfant, il n'avait pas eu d'enfant encore, Dieu lui dit, regarde au ciel, compte ses étoiles, et si tu arrives à les compter, ben, ta postérité, tes enfants, ils seront aussi nombreux que ça. C'est hallucinant quand même, le gars, il est en train de se dire certainement, mais j'ai même pas d'enfant. J'ai même pas un héritier, j'ai rien. Si c'est une fille qui naît, comment on fait? Et vous savez quoi? Dans cette postérité, nous, on se trouve. Cette postérité, elle est immense. Vous savez combien il y a d'étoiles dans l'univers? Il y en a, je ne sais rien. Rien du tout. Je ne sais pas combien il y a d'étoiles dans l'univers. Mais la Bible a dit que Dieu les a toutes placées et il leur a donné à chacune un nom. Alors juste pour s'imaginer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as une allée, par exemple, de gravier chez toi, une allée de 15 mètres qui mène de ta maison à ton portail? Et puis, est-ce qu'un jour, tu t'es arrêté, prendre le temps, tu dis, allez, je vais compter tous les petits graviers qu'il y a dans cette allée. Et je ne repartirai pas tant que je n'ai pas fini. Et je vais trouver un nom pour chaque petit gravier. Okay? Tu vois que Dieu, lui, il a une manière de voir différente de toi? Parce qu'il a un peu plus de temps que nous, en fait. Hein, il est éternel. Et il a beaucoup plus de puissance que nous. Et lui, il voit des choses que nous, on sera incapables de voir. Mais quand il dit, cette chose-là, je vais la faire avec toi, eh bien, il veut t'inviter à avoir ce regard-là. Cette chose-là, je peux la faire pour toi. Il veut t'inviter à avoir ce regard de la foi. Abraham, il avait un fondement, ce fondement spécial, c'était sa relation avec Dieu. Dieu est celui qui promet la chose et il peut l'accomplir. Amen. Hein? Et quelle a été la réaction d'Abraham devant ça? Le diapo suivant, il a cru Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne croit pas en Dieu, on croit Dieu. Tu ne crois pas dans l'existence de Dieu, tu crois quand Dieu te dit quelque chose et tu vas voir qu'il existe. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Et voyez ce que ça procure quand on commence à regarder par la foi. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Si tu vois avant ce que Dieu te dit, si tu vois dans ta tête ce que Dieu te dit, alors tu verras que Dieu est capable de l'accomplir. Tu verras que Dieu est capable de l'accomplir. Abraham, il a cru et il est devenu. Et nous, on veut devenir pour avoir plus de foi. Mais Dieu, non, il te dit non. Crois et tu vas devenir. Crois et je vais te transformer. Tu es incapable de faire ça. Mais si tu crois, je vais te transformer. Tu vas devenir ce que j'ai prévu que tu deviennes. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est possible ou pas? Moi, je crois que c'est possible. Parce que si ce n'était pas possible, on ne serait pas aussi nombreux. Il n'y aurait pas de deuxième culte, ni de troisième, ni de quatrième. Il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas de projet d'église. Mais comme il y a tout ça, je crois qu'il y a des gens qui ont cru et qui croient que c'est possible. Et au verset 20, c'est marqué, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Des fois, on essaye de prendre des forces pour avoir de la foi, mais Dieu te dit, non, c'est la foi qui te fortifie. Non, c'est quand tu vas avoir cette confiance en Dieu, quand tu vas t'abandonner dans la confiance en Dieu, Dieu va pouvoir agir. Il ne douta pas par incrédulité. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne douta pas par incrédulité? C'est bizarre comme formulation. Hein, en fait, je pense que ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il ne laissa pas l'incrédulité s'installer dans son cœur, ce qui l'aurait mené au doute. L'incrédulité, elle mène au doute. C'est ça la version biblique. Il ne laisse pas l'incrédulité s'installer dans son cœur pour qu'il en vienne à douter. Quand l'incrédulité, elle vient, eh bien, il a repoussé. Quand le diable lui a dit, mais ah, pff, allez, t'as 100 ans, mais t'as pas vu comme tu es. Et encore toi, ça va, t'es super. Mais ta femme, c'est impossible. Mais Dieu, lui, il a vu que c'était possible. Tu vois? Parce que Dieu regarde d'une autre manière. Et il veut t'inviter à regarder les choses de la manière dont lui, il les voit. Et quand je vous ai dit que c'était un passage de deux montagnes, on va aller vite à la deuxième partie. Donc, Nick Valenda, il a certainement étudié la première montagne, mais il n'a pas négligé d'étudier la deuxième aussi. Parce que s'il part, ça ne s'effondre pas là, mais ça s'effondre en face, résultat, c'est pareil. Hein. Donc, il s'est retrouvé dans cette situation où, en fait, il est en face d'une autre montagne. Et comme je vous l'ai dit, il était marqué « espérant contre toute espérance ». Abraham crut. Parce que notre foi, elle va rencontrer de la confrontation, elle va rencontrer d'autres montagnes. Ce n'est pas simplement la montagne qui est solide sur laquelle je suis bâti et à laquelle je vais me cramponner. Non, c'est des montagnes qui sont en face et que je vais rencontrer. Et ces montagnes que je vais rencontrer, ben pour lui, il y avait tout qui était contre lui. Son âge, l'état de son corps, l'état de sa femme, certainement le regard des gens, tout. Tout qui était contre lui. Mais il n'a pas douté. Il s'est attaché à la parole. Il s'est cramponné à la parole de Dieu. Il s'est cramponné, mais en avançant quand même. C'est bizarre quand même comme image, mais c'est comme ça. Parce que quand on reste cramponné à la montagne de départ, eh ben on va passer par-dessus la montagne d'arrivée. Amen. Je crois que c'est ce que Dieu il veut pour nous. Il veut qu'on puisse faire face à ces montagnes. Parce que cette relation de confiance, elle est attaquée. La confiance en Dieu, elle va être attaquée. Dieu lui-même va être attaqué. Le diable attaque Dieu. Quand on est dans le jardin d'Éden, la première chose que le diable va faire, c'est Dieu, attaque de Dieu, a-t-il réellement dit, attaque de Dieu, et puis sa parole. Parce que le diable sait que ta relation avec Dieu et ta relation avec ce que Dieu te dit, c'est ça qui va être déterminant pour la suite, pour que tu vois. Alors il a essayé de changer le regard d'Adam et Ève, et il y a réussi. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui se laissent distancer et qui laissent les montagnes changer la manière dont nous voyons Dieu. Vous savez, on peut voir une montagne de loin, une chaîne de montagnes sur une carte postale, c'est super magnifique, mais ça semble petit. Et quand on est loin de la montagne, mais plus on s'en rapproche, et plus notre champ de vision, il change. Plus on se rapproche de la montagne, plus elle est grosse. Plus je me rapproche d'un problème, plus il est gros. Plus j'en suis loin, plus je peux faire le gaillard, plus je m'en rapproche, plus je suis humilié. Mais mon regard, Dieu, il veut le changer encore. Il veut toujours me rappeler que je suis sur une montagne et que cette montagne, elle est plus haute que toutes les montagnes. Gloire à Dieu. je suis sur la promesse. Abraham ne douta plus là. Il crut dans la promesse de Dieu. Amen. Il a cru dans la promesse de Dieu. Diapo suivante, Hébreux 10, 23, c'est marqué la montagne de départ d'Abraham. C'est ce que Dieu lui avait dit, la promesse qu'il lui avait faite. Diapo suivante. Et on voit un verset. C'est bon ou pas? Diapo suivante. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Celui qui a fait la promesse. Vous savez, quand un jour, j'ai le temps d'attente entre le moment où Dieu te parle et le moment où ça arrive, j'ai comparé ça un jour à un endroit où tu te retrouves face à une foule de supporters qui te foncent dessus et un orage de grêle de l'autre côté. Et tu as juste Dieu qui t'a dit, attends là, je vais te bénir. Oh, putain, Seigneur. Et puis ça se rapproche d'un côté, ça se rapproche de l'autre. Et moi, j'ai juste envie de partir en fait. Mais si je reste en place et que je m'attends à la promesse de Dieu, elle va arriver. Et puis d'un coup là, je vois une voiture qui s'arrête, la porte qui s'ouvre et qui dit, vas-y, monte, on y va. Alléluia. C'était pas trop tôt, il était juste à 2 mètres et 2 mètres. Hein. Vous voyez, il y a des fois notre regard de la foi, il doit continuer à regarder tout simplement à ce que Dieu a dit. Celui qui fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Amen. Celui qui fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Et parce que c'est lui qui va te conduire sur l'autre montagne. Vous avez vu ce Nick Valenda? C'était étonnant quand même. Je ne savais même pas qu'il disait ça sur la vidéo, je pensais à ça. Et puis le gars, il disait « Thank you, Jesus. Amen. » Je croyais qu'il voyait autre chose que le vide. Autre chose que le vide. Il avait un regard particulier. Et je crois que ce regard, Dieu veut que nous l'ayons. Parce que les montagnes qui sont devant, elles n'ont pas une vie longue. Mais la montagne sur laquelle on est, la montagne de laquelle on part, elle est éternelle. Gloire à Dieu. Cette montagne, elle a annoncé Jésus. Dieu, il a envoyé sa parole faite chair, c'est Jésus. Jésus a tout donné, il a donné sa vie pour toi. Il te laisse sa parole et il a envoyé son esprit pour qu'il demeure en toi. Voyez ce fondement, ce n'est pas simplement des lettres sur un livre. C'est une personne qui veut vivre en toi et qui veut te conduire à voir comme elle voit. Amen. Conduire à voir comme elle voit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en face d'une montagne et une montagne insurmontable. Tu es parti, tu as la parole de Dieu, ta première montagne, mais la montagne qui est en face de toi, elle est tellement redoutable, tu ne sais pas où ça va aller. Crois que celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Crois que celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Et on va terminer avec la dernière diapo. La toute dernière. C'est pas grave. La toute dernière. On va terminer avec ça. Ah ben c'est celle-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, la foi, elle renverse tout. Et la foi, elle renverse les montagnes. On va lire Matthieu 17, verset 20. Et on va prier. Amen. Matthieu 17, verset 20. Jésus, un jour, va dire à ses disciples, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Et elle se déplacerait. Alléluia. Déplace-toi de cet endroit jusque-là. Et vous savez, souvent, cet ordre, il dit à la montagne, mets-toi là et déplace-toi derrière. Parce que moi, je vais continuer à avancer. Alléluia. Ce regard de la foi, c'est parce qu'on a un fondement sur lequel on peut se baser. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Dieu t'a fait une promesse, mon frère, ma soeur. Dieu t'a fait une promesse. Accroche-toi à cette promesse. Et crois, non pas en toi, crois pas. Une des grosses montagnes, c'est nous-mêmes. Mais appuie-toi sur lui. Amen. On va incliner nos têtes et on va prier.